RMC les grandes gueules.
On s'en fout.
Je peux pas te dire à quel point je m'en fous.
Pardonnez-moi, mais je m'en fous.
Ou on s'en fout pas.
Bonjour Louis Gerbier.
Salut GG, bonjour à tous. Alors le journaliste de Radio France, Jean-François Akili, a été remercié hier en raison notamment de ses liens avec Jordan Bardella. On lui reproche une collaboration avec le président du Rassemblement National pour l'écriture d'un livre. Or,
il n'a pas écrit.
Voilà, Jean-François Akili conteste cette collaboration. Pour la direction, les journalistes doivent suivre des règles déontologiques. Ces règles non respectées par le journaliste nous mettent dans l'obligation de réagir. On s'en fout, on s'en fout pas, Barbara Lefebvre.
On s'en fout pas.
Jérôme.
Non, on s'en fout pas.
Et Didier ?
M'en fous complètement.
Eh ben Barbara, tiens, dis-nous ce que t'en penses.
Non, mais c'est extraordinaire, je les adore. À Radio France. C'est-à-dire que des journalistes qui n'ont même pas informé leur direction qu'ils allaient collaborer à l'aide à l'écriture ou à des discussions préparatoires à un livre, il y en a à l'appel. Monsieur Akili n'a rien fait, il a juste peut-être déjeuné avec monsieur Bardella comme le font tous les journalistes politiques. Un journaliste politique, ça déjeune avec toute la classe politique. Peut-être que dans cette conversation, Bardella a évoqué le fait qu'il allait écrire un livre. Peut-être que M. Akili, elle lui a peut-être dit deux, trois trucs du genre « Ah bon, hein, comment vous allez le structurer votre livre ? Est-ce que vous savez déjà ?» Ça a dû s'arrêter, mais à ça. Mais Madame Chemin, on a fait tout un papier.
La journaliste du Monde. Ouais.
Qui d'ailleurs, maintenant, l'article n'est plus signé. D'ailleurs,
c'est sur la base de ces articles qu'il est censé. Hein. C'est ça, dit d'ailleurs dans le communiqué.
C'est ça qui est merveilleux.
Le Monde, Libération,
c'est merveilleux.
Je crois
que ça s'appelle.
Ils appartiennent tous à
les sources.
Ah ben,
le Monde et l'Armée
appartiennent au même groupe. Non, mais ça s'appelle 17 septembre 1793. Ça s'appelle la loi des suspects. Hein, tout ennemi de la liberté doit être guillotiné. Donc voilà. Ce pauvre monsieur Akili qui faisait son travail correctement, qui était un journaliste honnête. Moi, j'écoutais les informés, je trouvais que c'était très bien.
Il n'y en a pas.
Il était assez équilibré dans sa façon de présenter les choses. Eh ben voilà, c'est lui qui disparaît de l'antenne. Je dis vraiment bravo France Info. Franchement,
non, mais
je suis
effaré. Les cours supérieurs de journalistes viennent de placer tous ces étudiants en journalisme parce que là, on va faire partir 90% des journalistes, en gros. Parce que des journalistes qui n'ont pas écrit des bouquins ou qui n'ont pas servi de plume
à des politiques,
etc., du journaliste politique, mais je veux dire, c'est une palanquée.
Ça veut dire que peut-être que Bardella, c'est plus grave.
C'est ça que ça veut dire. Hein.
Je croyais qu'il s'en foutait.
Non, mais surtout qu'il n'a même pas écrit le livre. En l'occurrence, il n'a même pas écrit.
Le vrai truc, c'est qu'en fait, le bouquin, il n'est pas sorti.
Non, il y a eu un échange.
Il y a eu un
échange entre les deux. Et puis on lui reproche aussi.
Mais enfin, des journalistes qui mangent avec des politiques ou trucs.
On lui reproche aussi d'avoir participé à une réunion à la Baule avec un cercle de réflexion.
Mon Dieu.
Alors, il a dit oui, j'y ai participé, mais j'avais déposé la demande qui a été validée par la direction de Radio France et on dit que j'ai été rémunéré. Or, c'est faux, j'ai pas été rémunéré, ce que confirme aussi le festival auquel il a
participé. Ça ressemble.
Il n'a pas été rémunéré.
Ça s'appelle la chasse
aux sorcières. Non, mais Jean-François Akili, il faut dire que nous, on le connaît bien avec Alain, puisqu'il a été le directeur de la rédaction d'RMC.
Oui,
donc, c'est quelqu'un qu'on a fréquenté ici, ça a été un collègue de travail. C'est un très bon journaliste, Jean-François. Il l'a démontré dans le passé. C'est lui qui était d'ailleurs l'auteur du scoop Jérôme Cahuzac sur RMC, puisque Jérôme Cahuzac sur RMC BFM TV avait réagi pour la première fois à cette affaire. Et moi, je pense que ça ressemble plutôt à un règlement de compte, c'est-à-dire que c'est un prétexte pour se débarrasser de lui. Alors, pourquoi la direction de Radio France veut se débarrasser de lui ? Alors, ça, c'est l'histoire interne. Mais je pense qu'on se sert de quelque chose qui ne ressemble pas. Alors, dans ce cas-là, Laurent Geoffrin, qui écrivait les discours de François Hollande et qui a dirigé Libération. Enfin, je veux dire, on peut citer, il y a 50 exemples. Et tous ceux qui travaillent dans ce métier depuis 20 ou 30 ans pourraient vous citer 50 exemples de journalistes politiques qui ont écrit avec des politiques. Alors, pas forcément parce que c'était des militants.
Qui dorment pas dans le même lit.
C'était pour accoucher de leur. Voilà. C'est pour les aider.
On enchaîne.
Voilà, mais ça ressemble à un règlement de compte.
Que monsieur Akili va vite retrouver du travail et pourquoi ne reviendrait-il pas à RMC BFM le groupe le...
Pourquoi pas
ben voilà.
On enchaîne.
Alors toi t'avais écrit 5 bonnes raisons de vivre sur la Lune avec Jacques Cheminade
et oui, ça avait
jamais pas été licencié
et ça c'était très,
très bonne,
bien
c'est
rendu
la, Louis, très bonne.
Bien
et l'art du barbecue avec Fabien Roussel
Allez on enchaîne.
Ça c'est moi.
Tiens Barbara, c'est toi qui est concernée sur cette news. L'A13, l'autoroute A13 fermée jusqu'à mi-mai.
Oui.
Une réouverture partielle envisagée le 11 mai dans le sens Provence-Paris. Et alors, le petit bonbon, c'est la cause de cette fissure. Ce serait donc le mise en cause serait le chantier du musée du grand siècle de Saint-Cloud, à l'origine des fissures à cause des travaux. Et la direction des routes d'Île-de-France et de la préfecture des Hauts-de-Seine serait donc le propre coupable si l'autoroute est fissurée. On s'en fout pas, Jérôme ?
Non, on s'en fout pas.
Barbara ?
Non, on s'en fout pas.
Et Didier ?
On s'en fout pas.
Bah tiens, Didier, tu
fous. Bah, je suis pas un spécialiste grand chef chez Colas, mais j'ai quand même du mal à comprendre comment un parking VIP qui fait 13 par 13 peut créer des fissures de 80 cm de profond sur l'autoroute. Tu vois, j'ai du mal à... Il y aurait un petit règlement de compte politique là-dessous que je serais pas inquiet, quoi.
Non, parce que c'est collé, en fait. Si t'as vu le schéma, c'est ouais, dans la presse. En fait, le chantier est vraiment est collé à l'autoroute, à cette portion de l'autoroute.
Oui, tu peux
bien l'entendre.
Le parking, c'est pour un truc d'une envergure.
Non, mais c'est le trou qui fait des fissures.
Non, mais
c'est le trou qui fait
des fissures sur un kilomètre de long.
Oui, mais ils ont fait un trou, si tu veux, assez profond et ça a déstabilisé l'ouvrage.
Oui, c'est ça.
Non, tu peux faire un trou qui te semble anecdotique, mais avec un écoulement de terrain, avec des pluies, avec un contexte de aussi peut-être, parce que oui, là, ils essaient aussi de nous faire croire qu'il n'y avait pas de problème d'infrastructure, mais peut-être qu'il y avait déjà une petite fragilité. Tout ça accumulé,
Voilà.
Non, mais à mon avis,
La fragilité, elle existait, quoi. C'est pas la taille du trou qui fait des fissures comme ça.
Cette autoroute, il y a toujours des trous dans la chaussée.
Parce que c'est l'autoroute qui est gérée par l'État.
C'est une autoroute hyper, hyper fréquentée.
La question, c'est le coordonnateur des travaux, quoi. Parce que normalement, tu sais vérifier tout ça avant.
Qu'est-ce qu'il y avait avant
C'est une autoroute, moi, en tout cas, pour la prendre, je la prends pas souvent pour descendre parce qu'il y a trop de monde le matin, mais pour rentrer, ça me permet de rentrer plus vite. Il y a tout le temps des trous dans la chaussée. Une semaine, tu es là à cet endroit-là. La semaine d'après, tu es là à un autre endroit. Donc, c'est une route très empruntée, à mon sens, mal entretenue. Mais par ailleurs, je ne crois pas du tout au 11 mai. Je pense que ça va durer encore beaucoup plus. Et le problème, c'est la saturation des axes secondaires. Moi, ce matin, j'ai fait un petit tour dans la forêt de Meudon. Je mets maintenant plus d'une heure pour venir. Je suis obligée de venir en voiture parce que mon problème, c'est mon RERC et qu'après, je vais travailler. Et donc, je suis pas sûre de rentrer. Donc, du coup, je suis obligée de prendre la voiture. Et les axes secondaires, ça va pas du tout.
Justement, ce que j'aimerais savoir dans ce genre d'événement, c'est les retombées économiques. Parce que les retards engendrés, quand tu les multiplies par les millions de personnes qui font des allers-retours, combien ça coûte au pays ? Ça serait intéressant.
Non, mais ce que je comprends pas, c'est qu'on attend le 11 mai. Enfin, minimum, hein, parce que en fait, au début, c'était le 1er mai, ensuite, elle devait être cette semaine, maintenant, c'est le 11 mai.
La 15, ça a duré 10 mois.
Uniquement dans le sens de circulation. Effectivement, la 15, ceux qui s'en souviennent, c'était en 2018, je crois, ça a duré 10 mois, ça a été un cauchemar. Je comprends pas pourquoi on peut pas aller plus vite. Est-ce que il y a des chantiers qui doivent être prioritaires?
On continue.
Le 11 mai, ça fait encore 15 jours minimum. Ouais,
et encore le 11 mai,
sur un des plus gros axes.
Tu mets des mecs qui font les 3-8 et puis la route, tu la refais.
Voilà. C'est ça, je comprends pas pourquoi autant de temps. Mais
peut-être organiser un semi-marathon sur l'autoroute d'ici là. Enfin, la part cumulée, Didier, des agriculteurs et des ouvriers a diminué de près de moitié en 40 ans. C'est ce qu'énonce une étude de l'INSEE.
Ça t'étonne?
Par exemple, je te donne quelques chiffres. En 1982, les agriculteurs représentaient 7,5% des personnes en emploi. Savez-vous quel est le pourcentage de nos jours ?
3.
C'est moins.
2,2.
Bonne réponse de Jérôme Marty.
2 tourons.
ouais, 2 tourons. Pour les ouvriers, on est passé de 29,9 en 82 à 18,9. En revanche, c'est l'explosion des cadres. Les cadres en 82 représentaient 8% de la population en emploi. Aujourd'hui, c'est 21,7%. En cause, évidemment, l'élévation du niveau de qualification et la tertiarisation de l'économie. On s'en fout pas, Didier Giraud?
Bah non, on s'en fout pas.
Barbara Lefebvre?
On s'en fout pas, mais je laisserai Didier.
Jérôme Martin?
Non, on s'en fout pas.
Didier, explique-nous pourquoi.
Tu viens de mettre en évidence que des métiers peu attractifs, il y a de moins en moins de monde, et des métiers plus attractifs, il y a de plus en plus de monde. Après, derrière ça, je pense qu'il y a un vrai choix de société qui est fait dans les années entre 70 et 80. Quand à un moment donné, tu t'abandonnes l'industrie, t'abandonnes le secteur primaire, tu deviens une société de loisirs, une société tournée vers le tertiaire. T'expliques à l'éducation nationale qu'il faut emmener toute une classe d'âge au bac. Ce changement, il se fait à ce moment-là, quoi. Hein. Il se fait à ce moment-là quand tout le monde doit avoir le bac. Et ben, quand t'as le bac et puis que t'as fait un bac plus 4, on t'explique que tu peux pas aller travailler sur une chaîne pour visser des boulons ou te mettre à quatre pattes pour désherber des fraises, quoi. Voilà. On t'explique qu'il faut que tu demandes 2700 euros net de salaire à ton premier emploi, même si tu sais rien faire, même même si t'es une brêle, et puis tu, puis au plus vite, t'essaies d'avoir le statut de cadre. Voilà. Notre société, là, fait un choix d'abandonner le secteur primaire au profit du secteur tertiaire, et aujourd'hui, on est en train d'en subir, enfin, je dirais pas d'en subir des conséquences, d'en récolter les fruits, quoi.
Ouais. Oui, c'est pour ça que j'ai hâte, après avoir sacrifié les paysans, on n'a rien dit. Avoir sacrifié les ouvriers, avant, on n'a rien dit. Quand l'intelligence artificielle va nous laminer les petits cols blancs, alors là, on va aller voir les cols blancs qui n'ont rien dit pour les paysans, qui n'ont rien dit pour les ouvriers. Quand ça va leur tomber sur la tronche et que la moitié des métiers des soi-disant managers, parce que, excuse-moi, hein, cadre et manager, bon, il y en a certains, c'est de la flûte, hein, ça fait trois slides et ça te dit que c'est manager, et trois reporting et trois, quatre mots en anglais
les
et ça croit que c'est manager. Voilà. Et ben, quand ceux-là, ils vont être remplacés par l'intelligence artificielle, on va bien se marrer. Et c'est les métiers, les vrais métiers de la main, les vrais métiers de l'humain, c'est ceux-là qui resteront.
Mais tu sais, c'est en train de revenir un peu.
Il faudra reformer parce qu'on n'en aura pas assez.
Mais c'est un peu de revenir, Barbara. Il y a aujourd'hui des métiers très manuels, très salissants, très, où les patrons, ils sont obligés de mettre du pognon sur la table pour.
C'est très bien. Les gens qui ont un métier d'utilité sociale, le travail de la main, l'intelligence de la main, et le travail du care, le travail de l'humain, quand tout ça sera vraiment bien payé, on verra.
Le care.